Je suis avec Julien Fréchette, scénariste et réalisateur de plusieurs documentaires. Julien, merci d'être avec nous sur les ondes de 105.1 Choc FM, la radio 100% Toronto. Alors, pour vous présenter à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, vous avez réalisé plusieurs documentaires comme Mon Pays qui est sorti en 2012 ou encore Ma Vie en Islam dont certaines personnes peuvent encore se rappeler. Aujourd'hui, on va parler de Ma Guerre, un film qui a été représenté au Festival International canadien du documentaire Hot Doc de Toronto. C'était entre le 26 avril et le 6 mai. Un film absolument poignant qui parle de ces jeunes occidentaux qui ont décidé de tout quitter pour aller combattre l'État islamique et particulièrement du côté des Kurdes. Julien, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement votre parcours ?
Bien sûr. À la base, je suis documentariste, preneur de son, donc je travaille étroitement avec les gens avec qui je travaille. Et ce qui m'avait interpellé, en fait, dans ce sujet, c'est que j'avais été appelé à faire un autre documentaire précédemment au Kurdistan. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'avais fait une rencontre fortuite avec un de ces jeunes-là, qui était un des premiers Canadiens à se rendre au Kurdistan pour joindre les rangs des forces kurdes. Et donc, cette entrevue-là ne s'est jamais retrouvée dans le film qui était destiné à la télévision, mais c'est resté en moi, au fond de ma tête, et je me suis questionné sur ce qui les motivait, au fond. Et puis, j'ai fait un peu de recherche. Je me suis rendu compte qu'il y en avait plusieurs. Et c'était pas un cas isolé. Et donc, j'ai commencé à investiguer, contacter quelques personnes. Avec l'aide de l'ONF, on a pu se rendre au Kurdistan pour rencontrer ces jeunes et moins jeunes. Il y a des gens qui... Ça varie, en fait, de 19 à 50 ans, même 60 ans.
Vous avez fait 4 portraits d'individus dans votre film.
Ouais, il y a 2 personnages principaux. Donc, il y a Wally, qui est un ancien militaire canadien, un ancien sniper des forces canadiennes. Et il y a Anna Bowman, qui, elle, de son côté, n'avait aucune expérience militaire, originaire de l'Ouest, donc de Colombie-Britannique. Et autour d'eux gravitent d'autres personnages qu'on découvre au fil du film. Un Américain de 26 ans, un vétéran de l'armée américaine, et il y a aussi un Français, Thierry, qui est le doyen, si vous voulez, du groupe, qui a pratiquement 50 ans.
Qui sont ces volontaires, en quelque sorte, qui risquent leur vie?
Ben, le profil des combattants volontaires varie quand même passablement, mais généralement, il y avait 2 profils. Soit que c'était des anciens militaires qui avaient déjà de l'expérience, un passé militaire, ou c'était des jeunes qui, eux, n'avaient aucun passé militaire, mais qui avaient simplement envie de partir à l'aventure et de joindre une cause qui permettait de remplir, j'imagine, un certain vide, parce qu'il faut comprendre que, par exemple, en Syrie, les Kurdes mènent une petite révolution idéologique, et ça attire quand même beaucoup de jeunes occidentaux.
Qu'est-ce que vous avez remarqué? Pourquoi ces jeunes occidentaux décident de tout quitter pour se lancer dans des zones extrêmement dangereuses comme celle-ci? Quelles sont leurs motivations, puisqu'en fait, ils risquent tout?
Écoutez, les motivations sont diverses. Généralement, c'est l'envie de participer à un combat. Des fois, c'est simplement une recherche d'adrénaline. Mais c'est très certainement de participer à une guerre, même si c'est la guerre de quelqu'un d'autre. Et ces gens-là étaient très bien accueillis, en fait, aussi par les Kurdes, qui respectaient leur démarche, hein. Même s'ils s'en servaient pas nécessairement toujours à bon escient. C'était, j'imagine, en grande partie, souvent le goût et l'aventure qui les attiraient.
Mais alors, c'est toujours difficile d'imaginer quand même leur quotidien. Dans ce contexte-là, il n'y a aucune différence. Il y a autant d'hommes qu'il y a de femmes. Je voudrais savoir comment ça se passe au quotidien.
Ben, comment ça s'organise? Ça s'organise de façon assez simple. À l'époque où on vit, c'est vraiment les réseaux sociaux qui ont permis de faciliter, en fait, la démarche de ces gens-là, dans la mesure où on pouvait facilement contacter les organisations qui les accueillent via une page Facebook qui donne les instructions, comment se rendre, comment on est accueilli après ça sur le terrain. C'est un peu ce qui est particulier du phénomène, c'est qu'il se déroule à l'ère des médias sociaux, et donc ben, c'est eux qui facilitaient toutes les démarches. Et après ça, grosso modo, des gens prennent l'avion, se rendent au Kurdistan irakien, soit qu'ils décidaient d'aller combattre avec les forces kurdes en Irak, ou pouvaient ensuite par la suite rentrer en Syrie en utilisant les services de passeurs.
Comment elles mènent campagne, ces organisations kurdes, pour recruter justement des combattants?
Honnêtement, ils ont même pas besoin d'organiser des campagnes de recrutement. Le mot, j'ai l'impression que c'est passé par lui-même. Ils n'ont pas nécessairement publicisé outre mesure. Et après ça, ça s'est mis à circuler dans des réseaux d'intérêt, des réseaux d'initiés. Et puis le mot s'est passé beaucoup auprès d'anciens combattants qui avaient envie, en fait, d'aller participer à une guerre. Aucun pays était officiellement impliqué dans la guerre au sol, à part par les forces spéciales, et donc il y a certaines personnes qui voyaient la possibilité, en fait, c'est une possibilité facile, la porte est grande ouverte, hein, dans la mesure où c'est pas illégal d'aller participer à une guerre à l'étranger, à condition qu'on ne joigne pas les rangs d'une organisation terroriste, et les Kurdes ne faisaient pas partie d'une organisation terroriste, elles faisaient partie de nos alliés dans la guerre contre l'État islamique, donc... La porte était grande ouverte pour que tout se déroule comme ça s'est déroulé.
Alors, il faut savoir que dans ce documentaire, vous l'avez même dit vous-même tout à l'heure, vous avez pris un Français, une Québécoise, et il y a même une personne qui vient de l'Alaska. Alors, quand vous avez écouté leurs histoires, quelle a été votre réflexion?
Mon objectif principal était davantage porter la réflexion, en fait, au spectateur. Moi, de mon côté, mon rôle est davantage d'essayer de comprendre, en fait, les motivations de ces gens, de les accompagner, de les suivre. Mais après ça, le plus possible de pas nécessairement juger, mais de montrer l'expérience de ces gens-là.
Mais il y a quand même un message à transmettre quand vous avez fait ce documentaire.
Ouais, c'était vraiment, en fait, mon désir personnel de réfléchir à l'idée de participer à une guerre et aux motivations derrière celle-là. Je pense que ces réactions sont assez fondamentales, assez viscérales face à l'injustice. On a envie de faire quelque chose, qu'on voit un groupe qui publicise des exactions, qui kidnappe des gens, des enfants, des femmes. On a un sentiment assez viscéral, assez primaire chez certaines personnes de dire, il faut faire quelque chose. Il faut aller les empêcher. Il faut aller, donc, participer à une guerre. Ils ont des armes. Donc, nous aussi, on va s'armer. Donc, j'avais envie, en fait, de suivre des gens qui, eux, de leur côté, face à l'impuissance, essayaient de prendre action pour essayer de voir, est-ce que tout ça mène à quelque chose qui a un sens?
Alors, on va essayer de revenir un petit peu quand même sur votre parcours, parce que j'ai envie de comprendre la chronologie de vos documentaires. Vous vous rappelez forcément de L'Homme et la Montagne, votre premier documentaire produit en 2004. D'ailleurs, vous avez même remporté un prix. Alors moi, je veux savoir avec votre œil de réalisateur. Au fil des années, vous avez pris du galon. Quel regard vous avez maintenant sur votre parcours? Quel recul vous avez pris?
Je dirais, si je regarde mes œuvres antérieures, même à partir de ma première œuvre, c'est vraiment c'est vraiment l'humain, en fait, qui est au centre de mes réflexions. Je suis pas un cinéaste qui fait de l'observation passive, mais j'ai beaucoup de questionnements, en fait. Je suis toujours en relation avec mes sujets, avec les gens que je filme. On ne voit jamais dans mes films, mais on m'entend toujours.
Sur toutes les réalisations que vous avez faites, quel est le documentaire qui, aujourd'hui, vous a le plus marqué?
Je pense que pour tous les réalisateurs, c'est toujours le dernier film qui est le plus important, qui est le plus marquant. Ça fait pas exception. Ma guerre, c'est clairement le film qui, en ce moment, m'a le plus marqué pour diverses raisons, parce que c'était assez terrifiant et en même temps challengeant comme expérience de partir dans des zones comme celle-là, de côtoyer des gens qui, à prime abord, c'est pas des gens avec lesquels on a le plus d'intérêt et d'affinité, mais on essaie de niveler tout ça pour arriver à comprendre leur réalité et puis à la transmettre.
J'essaie vraiment de comprendre le côté empathique du réalisateur. Est-ce que quand vous avez vu ces profils que vous avez choisis, est-ce que vous vous êtes identifié à quelqu'un?
Oui et non. Non, c'est difficile. Non, je peux pas dire que je m'identifiais. La prémisse du film était vraiment d'essayer de comprendre, en fait, parce que moi-même, quand j'étais allé au Kurdistan la première fois, j'en étais ressorti bouleversé, vraiment, avec un sentiment d'impuissance. Et c'est moi qui avais eu, dans le fond, la question de base, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que même la vengeance est souhaitable dans un certain cas? Et c'est pour ça que moi, j'avais envie de suivre des gens qui, eux, décidaient de prendre ce chemin-là. Mais moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a intéressé de passer à l'action en tant que tel, mais je voulais suivre des gens qui, eux, le faisaient.
Est-ce que le cinéma, c'est quelque chose qui, un jour, peut vous intéresser?
Oui, oui, éventuellement, ça pourrait être intéressant, mais je dirais qu'en ce moment, je tends à diversifier mes activités. Le cinéma documentaire se porte pas nécessairement très bien, malgré que des très beaux succès en festival. Le cinéma documentaire en vivre, c'est de plus en plus difficile ici au Canada. Donc, j'ai commencé en fait une nouvelle carrière aussi en marge de mon documentaire.
Vous avez parlé de projet, j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit.
Ben, en ce moment, je tente de développer un documentaire sur le piment fort.
Le piment fort?
Oui, le piment fort, sur le fruit, le fruit épice. Ce serait donc un documentaire long-métrage qui décortiquerait la relation que l'être humain à travers le monde a avec le piment fort, tant que ce soit culturel, scientifique, culinaire. Donc, notre relation avec cet étrange petit fruit qui a la particularité à la fois, dans le fond, d'être repoussant et attirant, qui fait mal et qui fait plaisir à la fois. Donc, c'est un fruit qui contient beaucoup de paradoxes.
Eh bien, merci, Julien, de nous avoir fait découvrir ce reportage.
Merci à vous.
C'est la fin de notre interview et j'espère que vous avez été contents, chers auditeurs, de découvrir ce film Maguerre, un film documentaire qui a été présenté au Festival Hot Doc de Toronto. En attendant, je vous propose de continuer avec nous sur les ondes de 105.1 Choc FM. On continue en musique.